en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, en habit vert s'intéresse dans cette émission à Charles Darwin et plus spécifiquement à l'histoire de sa pensée, la transmutation des espèces, plus tard appelée théorie de l'évolution. Une émission en habit vert car, le saviez-vous, le naturaliste anglais, dont on fête en 2009 le bicentenaire de sa naissance, était correspondant de l'Académie des sciences. Nous vous proposons de faire le tour de l'histoire de la pensée de Darwin, sans tomber pour autant dans la darwinolâtrie, pour citer notre invité, Marc Giraud. Marc Giraud, bonjour.
Bonjour Élodie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes journaliste spécialisé en zoologie, vous présentez des documentaires animaliers sur différentes chaînes de télévision. Vous êtes également animateur de chroniques radio à France Inter et vous êtes l'auteur de Darwin, c'est tout bête, mille et une histoires d'animaux pour comprendre l'évolution, paru aux éditions Robert Laffont en 2009. Alors toute une série d'ouvrages consacrés à Darwin donc, est sortie en librairie pour cette date anniversaire. Pourquoi avoir rédigé le vôtre ?
Oui, c'est vrai, on peut se demander parce qu'il y a de la concurrence. Hein. Mais j'ai remarqué que tous les gens qui parlaient de Darwin en parlaient un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui philosophent et qui parlent de théologie et de l'autre côté, les scientifiques qui parlent de génétique et de choses très compliquées. Alors qu'on ne parle jamais de ce qui intéressait Darwin lui-même, c'est-à-dire l'étude des roches, des plantes et des animaux. Moi, je suis naturaliste de terrain, donc j'écoute les chants des oiseaux, etc. Mais c'est ce qu'il faisait lui aussi depuis sa tendre enfance. Donc j'ai remis un petit peu à l'ordre du jour le vrai Darwin, quoi, le Darwin vivant et humain que j'aime bien.
Alors vous y mettez beaucoup d'humour, beaucoup d'humanité aussi. C'était votre volonté que de le faire original, ce Darwin ?
Oui, bah lui-même est original, donc moi j'ai suivi les exemples. Hein, voilà, donc c'est... Bon, il passe toujours pour un personnage austère, etc., ce qu'il était en partie. Je vais pas en faire un rigolo non plus, hein. C'était pas un bout en train, mais il a quand même un certain humour et surtout de l'originalité, un peu à l'anglaise, quoi. C'est un farfelu, il fait des expériences bizarres, et donc évidemment j'en parle.
Bien sûr, alors on va y venir au cours de cette émission. Vous commencez dans votre livre par tordre le cou aux idées reçues, aux mythes qui entourent Darwin. Le premier qui est que la théorie de l'évolution n'est pas née en observant les pinsons du Galapagos.
Oui, absolument. Quand il est arrivé au Galapagos, il commençait à être fatigué, hein. C'était un voyage qui a duré 5 ans en tout, alors qu'il devait durer 1 an et demi, 2 ans. Et il était un peu distrait, incroyablement distrait, parce qu'il commençait à avoir des idées sur la variation des espèces, leur parenté, etc. Et on lui avait dit, par exemple, que les tortues n'avaient pas la même forme de carapace dans chaque île. Les pinsons, pareil, ne sont pas les mêmes dans chaque île. Donc, il y a bien une évolution de chacun. Et en fait, les tortues, ils en ont embarqué 20 à bord du Beagle. Ils les ont mangées, ils les ont jetées à l'eau comme des vulgaires déchets de cuisine. Ils n'ont pas fait tellement attention. Darwin n'a pas pris de notes sur l'origine des pinsons. Il a laissé faire ça à son serviteur. C'était pas un ornithologue très pointu sur les espèces exotiques, donc en fait il pensait qu'ils étaient tous de la même espèce. Il s'est planté. On peut pas dire que c'était un coup de génie de la part de Darwin au Galapagos. Mais en revanche, c'est encore plus fort parce qu'il s'est servi de son erreur, c'est-à-dire qu'une fois que John Good, le grand ornithologue britannique, s'est aperçu que c'était des pinsons d'espèces différentes, Darwin a commencé à se dire ils sont d'espèces différentes, ils sont quand même apparentés, donc ils sont issus d'une espèce mère qui est arrivée il y a des milliers d'années. Et ça fait partie quand même de sa théorie, mais c'est pas l'éclair de génie dont on parle tout le temps et c'est pas plus mal.
Et cet éclair de génie, je crois que c'est dans un zoo à Londres où il écrit sur son carnet de notes en regardant un orang-outan femelle,
oui,
hein, d'ailleurs,
oui,
petite
oui.
Précision.
Génie.
C'est en regardant cet orang-outan qu'il se dit « homme issu de singe ».
Oui, absolument. En 1837, c'est là le début de... Bon, alors, tout au long du voyage, il a commencé à se poser des questions, hein, parce qu'au départ, il était complètement créationniste dans son genre. Hein. Il croyait que les espèces étaient fixes et n'évoluaient pas. Et donc, à son retour à Londres, il a vu pour la première fois un grand singe, donc Jenny, l'orang-outan. Et là, il eut un choc parce qu'il s'est aperçu qu'il avait les mêmes mimiques que les enfants humains. Alors, par exemple, il achetait un harmonica à Jenny. Il s'est aperçu qu'elle en jouait comme lui pour l'imiter. Enfin, il a été très, très surpris par la parenté entre l'homme et le singe. Hein, c'est pas tout à fait une légende et ça fait partie de ses réflexions.
Mais j'imagine que Darwin n'était pas le seul à penser ça. L'idée de l'évolution des espèces, je crois que même déjà à l'époque antique, on y faisait références.
Oui, c'est une certaine évidence dans pour nous aujourd'hui. Hein. Il y a d'autres gens qui l'ont pensé, évidemment, mais au Moyen-Âge et jusqu'à Darwin, on croyait d'abord que la Bible était un livre scientifique et donnait toute la vérité. C'est-à-dire que le monde avait 6000 ans et les espèces ont été créées en quelques jours, parfaites et immuables, et la plupart des gens en croyaient ça, sauf évidemment certains esprits, dont Lamarck, évidemment, dont les Anglais ne parlent pas beaucoup. Je suis allé à Londres au muséum voir l'expo Darwin sur les ancêtres de la pensée du transformisme. Ils ne citent même pas Lamarck, hein, quand même. Il y a encore un peu de chauvinisme entre eux et nous. Ils citent le grand-père de Charles Darwin, Erasmus, qui était un original, un type très très rigolo, un énorme bon vivant, anti-esclavagiste, qui a refusé d'être le médecin du roi, enfin bon, un libre penseur. Il avait fait scier sa table, un demi-cercle sur sa table, pour pouvoir rentrer sa panse, tellement il était gros. Et bon, c'était un drôle de zig, et il a écrit un bouquin sur la médecine en vers qui s'appelle Zoomania, où il parle de justement l'évolution des espèces.
Le père de Darwin, qui, je crois, quand il décédera, bien sûr, donc léguera la fortune à son fils, Charles, et oui. Donc ce qui lui permettra, lui, à Charles, de travailler librement à ses recherches.
Ah oui, c'est quand même un bourgeois, Darwin. Il n'a jamais eu besoin de travailler vraiment pour vivre, et ça l'a bien aidé.
Pour aller dans le sens de cette idée d'évolution d'espèces, même s'il n'y avait pas encore la preuve, on ne pouvait pas encore réellement mettre le doigt là-dessus, je reprends donc dans votre livre, vous citez deux citations, la première de Plutarque qui affirme que les poissons sont les pères et les mères de l'espèce humaine, et Voltaire qui répondait qu'il ne parvenait pas à croire qu'il descendait d'une morue.
Ben voilà, c'est tout le dialogue entre les transformistes et les fixistes, ce qu'on appelle les fixistes, comme Cuvier et d'autres qui sont réputés pour avoir milité en faveur de la non-évolution des espèces.
Vous disiez il y a quelques instants que Darwin, au départ, avant son voyage, était fixiste. Hein, il ne pensait pas que les espèces évoluaient. Il faut dire que Darwin, au début, donc, il entame des études de médecine et puis après, il entame des études pour devenir pasteur. Donc oui. J'imagine qu'il était, comment dire, emprunt d'une religion qui faisait qu'il n'était pas fait pour ensuite avoir un autre mode de pensée et penser notamment à l'évolution des espèces.
Oui, au début. Il a eu un prof, Henslow, qui a eu de l'importance dans sa vie, qui lui avait suivi des cours de Lamarck et était un admirateur de Lamarck. Mais Darwin n'a jamais rendu justice à Lamarck quand même. Il n'a jamais cité comme quelqu'un qui l'ait influencé. Mais oui, effectivement, la plupart des profs étaient des religieux et être pasteur, pour lui, c'était un bon avenir parce qu'il aurait eu le temps d'être naturaliste. Et en fait, c'est ça qu'il voyait avant de partir au Beagle. Mais quand il est revenu, là, il avait oublié tout ça. Hein.
Sur le Beagle, il passe pour un original. Vous nous disiez qu'il était austère, mais il avait aussi sa part d'originalité.
Ah bah oui.
Il passe pour un original auprès de l'équipage, mais aussi auprès de la population autochtone. Vous
pouvez nous
en dire plus ?
Bien sûr, l'équipage l'appelle la trappe-mouche parce que lui, il était quand même passionné. Donc, il avait le mal de mer, il faut dire, hein, le pauvre. Donc sur les 5 ans, il a été quand même obligé de rester 1 an et demi à bord du bateau. Il avait un mal de mer épouvantable, ça ne l'empêchait pas d'attraper des crustacés, d'attraper des papillons, tous les insectes qui tombaient à l'eau autour de lui, les poissons, etc. Il regardait les dauphins, les baleines, enfin, il était curieux de tout, mais vraiment de tout.
Et puis, je crois qu'il prenait part, donc Fitzroy, le capitaine, avait des idées très arrêtées sur l'esclavage.
Ah, ils sont opposés. Hein, c'est ça que j'aime bien chez Darwin, c'est qu'il n'a pas de préjugés contre les autres et contre la différence, qui qu'il soit, qu'il soit ver de terre, orang-outan, animal ou humain, homme ou femme, noir ou blanc. Il était contre l'esclavage, il n'était pas ni raciste, ni sexiste, ni même spéciste. Hein, on peut dire ça comme ça. Hein, il a milité, entre guillemets, pour l'unicité du vivant. Donc il n'avait pas de préjugés comme ça. Donc il s'est opposé à Fitzroy, qui lui, le capitaine, avait un sale caractère, qui a commencé à fouetter ses marins devant lui jusqu'au sang. Il n'a pas aimé ça du tout, parce qu'il détestait la brutalité, vis-à-vis des hommes comme vis-à-vis des bêtes. En revanche, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était quand même, il était assez marrant, parce que avec les populations locales, il faisait un peu le clown, quoi. Il folklorisait son personnage pour gagner l'hospitalité, parce que dans les pampas, etc., il y a très peu de gens, donc l'hospitalité est d'usage, mais il voulait quand même payer. Donc alors, il allumait des allumettes avec sa bouche ou avec ses dents, etc., et les gens venaient, il l'appelait l'homme qui sait tout, parce qu'avec ses boussoles, etc., il montrait qu'il savait son chemin alors qu'il n'était pas d'ici. Il les étonnait parce qu'il leur disait que la Terre était ronde. Enfin bon, voilà, il faisait un peu le clown, quoi.
C'est aussi un original à travers ses expériences, tout au long de ses recherches. Il travaille sur les mouches lumineuses et les moustiques.
Oui.
Et alors, j'aimerais que vous nous en disiez plus. C'était quand même assez amusant. Enfin, c'est amusant pour nous, mais peut-être
oui,
pas pour lui.
Oui, on le ferait pas, mais lui, il l'a fait. Hein. Ben, dès son enfance, une fois, il collectionnait les coléoptères. Et une fois, il en voit deux qui sont rares. Donc, il en prend un dans chaque main. Il en voit un troisième. Qu'est-ce qu'il fait ? il en met un dans sa bouche. Et le coléoptère, c'était un scarabée péteur. Il lui explose dans la bouche. C'est un jet d'acide quand même qui lui a brûlé la langue. Et le jeune Darwin n'a déploré qu'une chose, c'est qu'il avait perdu un échantillon. Et ça ne lui a pas servi de leçon, puisque après, il a continué au voyage du Beagle. Il a vu des quantités incroyables de moustiques qui lui piquaient le bras. Donc, au lieu de les chasser, il les a comptés. Voilà, ça, c'est du Darwin tout craché.
Donc, il dit qu'il y avait une cinquantaine de moustiques qui lui suçaient la main.
Voilà, et voilà, il regardait. C'est un vrai scientifique.
Scientifique aussi qui s'intéresse aux vers de terre et qui joue de la musique à ces vers de terre.
Ah oui, oui, bah ça c'est son dernier livre. Il s'est intéressé à des animaux qui n'intéressaient personne, les vers de terre, parce que lui, il était conscient que des petites choses, des petites variations et des petits animaux, avec le temps, transformaient les choses. Donc c'est lui qui a découvert que les vers de terre enfonçaient les monuments, les églises, les châteaux forts, etc., par leur travail. Et donc il faisait des expériences sur les sens des vers de terre, et notamment justement, il hurlait, il jouait du piano, il faisait jouer du basson à son fils devant les vers de terre pour savoir s'ils avaient une audition.
Et en fait, non, ils étaient sourds.
D'après lui, non, non, ça ne marchait pas. Mais il leur soufflait des haleines parfumées aussi, chiquait, etc., pour voir s'ils sentaient des choses. Hein. Et lui, il est très curieux.
Alors aujourd'hui, les hypothèses de Darwin nous semblent assez banales, mais il faut dire qu'à l'époque, elles étaient assez fantasques.
Révolutionnaires même, parce que... C'est ce qu'on appelle une blessure narcissique, hein. C'est Freud qui a parlé de ça.
Introduction à la psychanalyse.
Oui, oui, oui. Il a dit que Copernic, en disant que la Terre n'était pas le centre du monde, nous avait infligé une première blessure, et que Darwin, disant qu'on était un animal comme les autres, en a fait une deuxième. Et Freud, il en a remis une couche en disant qu'on n'était même pas maître de nous-mêmes, puisqu'il y avait un inconscient. Voilà. Mais c'est là où il a choqué, en fait, c'est qu'il nous a mis dans la lignée animale. Il a bien dit qu'on n'était pas le sommet de l'évolution, qu'on était une branche comme une autre du grand arbre de l'évolution, on n'est qu'une brindille, qu'on n'est pas le but de la création, contrairement à ce qu'on croit encore. Hein. Vous savez, le dessin du singe qui est courbé, qui se redresse pour devenir un homme, on dirait que c'est une volonté de devenir humain, mais non, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité. Voilà, et ça, ça a été dur à avaler, et ce n'est pas encore bien avalé aujourd'hui.
Hein. Et Dieu est également exclu de la science, qui
voilà,
est autre
il a bien
révolution.
Séparé. Il a bien séparé les choses. Alors... Dieu, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que la science s'occupe du comment des choses et la religion et les croyances du pourquoi. Donc, c'est pas la même chose. Darwin lui-même a fini par ne pas croire, mais c'est son problème personnel. Mais c'est vraiment deux choses opposées. Vous savez, à propos du créationnisme, les élus du Conseil de l'Europe ont une formule que j'aime beaucoup. Ils ont dit il ne s'agit pas d'opposer les croyances à la science, il s'agit d'arrêter que les croyances s'opposent à la science. Voilà.
Aujourd'hui, l'hypothèse Darwin la plus citée est celle de l'ours pêcheur hein, pour avancer sur l'évolution des espèces.
Oui, c'est une idée qui a fait rire tout le monde en fait, et pourtant qui est tout à fait plausible parce qu'il raconte l'histoire d'un ours qui chassait des mouches sur un lac. Il a dit, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire s'il n'y a pas de concurrence entre cet ours et d'autres espèces, à ce que petit à petit, il devienne une espèce de monstre aquatique comme une baleine.
Parce qu'il a la gueule ouverte, je crois, pour choper toutes ces mouches,
voilà.
À l'image un peu de la baleine qui
Absolument.
Va, pour prendre le plancton, circuler avec la bouche ouverte.
Alors, ça fait rire tout le monde parce qu'aucun ours n'est devenu une baleine. N'empêche que l'ancêtre de la baleine, c'était bien un animal qui était terrestre, qui ressemblait à une sorte de loup, et dont on a trouvé les fossiles depuis Darwin. On a trouvé des tas de preuves de ce qu'il avait avançait lui par intuition, et on sait maintenant que l'ancêtre de la baleine était terrestre. Pour preuve, les organes et les os vestigiaux. Alors ça, c'est un mot, c'est un néologisme scientifique qu'il n'y a pas dans le dictionnaire, hein, mais il s'exprime bien. Nous-mêmes, nous avons plein d'organes vestigiaux. Nos poils, qui sont un résidu de fourrure. L'appendice, le coccyx, évidemment, qui est hérité de nos ancêtres qui grimpaient dans les arbres et qui avaient une queue préhensile. Et pour Darwin, c'était une grande preuve qu'on avait des ancêtres, puisque c'est des traces du passé. Comment un dieu créateur aurait mis un coccyx ou un appendice ou des résidus de pattes arrière à une baleine qui n'en a pas besoin? Donc c'était une des grandes preuves pour lui. Les os et les structures vestigiales.
Alors, pour poursuivre sur ces structures vestigiales, vous expliquez aussi dans votre livre, pour parler un peu de l'être humain, parce qu'on aime bien parler de nous, le fœtus a des...
Des souvenirs aussi.
Des souvenirs. Je pensais à la fourrure que l'on a au sixième mois. Enfin, fourrure, peut-être n'est pas le terme
l'anugo,
approprié.
L'anugo, je crois que ça s'appelle. Comme les bébés phoques, oui. Et on perd cette fourrure. Mais au début, on a des fentes de
d'ouïe,
comme les poissons. Alors, on ne peut pas dire que l'évolution du fœtus soit un résumé de l'évolution. Mais en revanche, c'est des témoins de ce qu'ont été les autres fœtus de nos ancêtres.
Marc Giraud, si vous voulez bien, on marque une pause et on poursuit dans quelques instants la suite de notre émission. A tout de suite.
Canal Académie vous propose L'auteur caché, Une rubrique ludique pour tester vos connaissances en littérature française. 10 indices, 10 lignes d'extrait en moins de 10 minutes pour découvrir de quel auteur il s'agit. Vous êtes prêts ? À vous de jouer avec l'auteur caché, une rubrique de l'émission À voix lue à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission En habit vert, toujours en compagnie de Marc Giraud avec qui nous parlons de Darwin, ouvrage Darwin, c'est tout bête, paru aux éditions Robert Laffont en 2009. Nous poursuivons sur l'histoire de la pensée de Darwin avec vous Marc Giraud. Venons-en, si vous le voulez bien, aux quelques erreurs, il n'y en a pas beaucoup, mais de Darwin. Les quelques erreurs de Darwin puisqu'il a écrit tellement de choses, il a voulu tellement expliquer de choses qu'il a finalement commis par...
Presque cafouillé quelquefois, oui.
Il a commis des erreurs ou même parfois dire le contraire de ce qu'il pense.
Oui, voilà, un peu tout et son contraire, tellement il était soucieux de vérité. En fait, c'est pas du tout de la malhonnêteté, au contraire, il voulait tout dire, tout étayer tout, regarder toutes les possibilités, même celles qui sont contradictoires. Mais bon, fondamentalement, c'est lui qui a découvert le mécanisme de la sélection naturelle, dont on sert aujourd'hui toujours dans toutes les sciences. Dont ses erreurs, c'est des petites choses quand même. Une de celles dont on parle le plus souvent, c'est le rythme de l'évolution. Parce que pour lui, c'était des petites variations, toutes petites, imperceptible au cours de millénaires, sinon de millions d'années. Or, il y a des gens, genre Stéphane Jay Gould, qui ont postulé qu'il y avait aussi des grands changements très rapides, et que c'est ça qui faisait des changements entre des branches animales ou végétales très très différentes. Mais bon, ça, c'est, je dirais pas que c'est du chipotage, mais l'un, de toute façon, l'un ne contradit pas l'autre, et les deux sont possibles. Voilà.
Il croit aussi en l'hérédité des caractères acquis.
Ah oui, ça fait mal. Parce qu'en fait, c'est lui qui a inventé que c'était pas vrai, mais en même temps, comme tout le monde y croyait à l'époque, Ça vient de la marque, hein. C'est de la fameuse
histoire. La fonction crée l'organe.
Voilà, qui est entièrement faux. Hein. C'est la grosse erreur de la marque qui a fait plein de choses bien et on ne retient que ça, c'est le coup de la girafe. Quoi. C'est-à-dire qu'il disait que la girafe, à force de tirer son cou, finissait par avoir un cou plus long et que ça se transmettait à sa descendance, ce qui est absolument faux, puisque ce qui se transmet à la descendance, c'est dans les cellules sexuelles et non pas dans les autres cellules. Ça, on le sait aujourd'hui. Donc Darwin a dit le contraire. Mais en même temps, comme tout le monde croyait à l'hérédité des caractères acquis, il en a parlé aussi. Donc on peut lui reprocher. Voilà. C'est vrai qu'il y a une sorte de mélange, mais moi j'ai lu Darwin pendant 2 ans. Il a écrit énormément quand même. Donc qu'il y ait des petites contradictions, des petites choses comme ça, oui, c'est inévitable.
Alors en 1872, il rédige L'origine des espèces, ouvrage, je pense pouvoir dire, le plus connu de Darwin.
Oui, c'est celui qui a basculé. Oui.
Voilà, celui qui a fait basculer. Je crois qu'il a été encouragé par des amis pour écrire, parce que je crois qu'au départ, il n'était pas chaud, comme on dit,
non, il
était pour
pas
écrire.
Chaud bouillant, non, il a mis 21 ans. Quand même avant de sortir son livre. Hein.
Pourquoi ?
D'abord, c'était un bourgeois bien installé, il avait peur de perdre son statut social, voilà, d'être discrédité, parce qu'avant lui, il y a quelqu'un, un journaliste, mais c'était anonyme, qui a publié un livre sur l'évolution, il a été descendu en flèche, donc il se méfiait beaucoup de ça. Mais il l'a même écrit à un copain à lui, il a dit mais c'est comme d'avouer un crime quoi. Il avait très peur de ce qu'il avait trouvé, hein. Il a chassé Dieu de la science, il a mis l'homme au milieu des singes, enfin bon, il savait très bien les conséquences que ça allait avoir vis-à-vis notamment des religieux et même des scientifiques d'ailleurs, donc il a été très prudent, mais aussi faut bien dire que lui il était lent. Parce qu'il cherchait tous les détails. Il a mis 8 ans quand même à faire une monographie sur certains crustacés qui s'appellent les cirripèdes. 8 ans. Il avait une indigestion de crustacés, il n'en pouvait plus. À la fin de ses études, il a dit « Aucun homme au monde ne hait les cirripèdes autant que moi ». Voilà, il en avait ras-le-bol des cirripèdes. Mais n'empêche que ça lui a donné une légitimité. Et quand il a publié son livre, il avait des arguments.
Il avait des arguments, il était épaulé par Russell Wallace, qui est un naturaliste, qui lui a écrit, ils ont correspondu avant que...
Oui, alors Russell Wallace, là c'est la mauvaise, le mauvais hasard pour Darwin, c'est que lui c'est un autre explorateur, bien plus jeune que lui, dans un accès de fièvre, c'est vraiment ça, de paludisme, en 3 jours il a écrit la même chose que Darwin, il a trouvé les mécanismes de la sélection naturelle. Darwin était sur le flanc, il n'en pouvait plus, en plus il avait d'autres malheurs personnels, et c'est ses amis qui ont encouragé les deux chercheurs à publier ensemble, et il y a eu un très très grand fair play de la part de Wallace et de Darwin. Wallace a reconnu l'antériorité et la supériorité des travaux de Darwin et lui a laissé un petit peu la vedette médiatique, si on peut dire.
En 1859, il publie donc l'Origine des espèces. Tous les exemplaires sont vendus en l'espace d'une journée.
À 1250, ça fait rêver, hein, l'auteur que je suis. En une journée, c'est parti.
Et avec des réactions très contrastées.
Oui, très contrastées. Alors, bon, évidemment, il y a une opposition des religieux, mais pas systématique comme on pourrait le croire. Il y a des religieux qui lui ont écrit.
Charles Kingsley, par exemple.
Oui, qui n'est pas des moindres, puisque c'était le chapelain de la reine Victoria. Qui lui a dit « Peut-être que je me suis trompé, mais tant pis, j'admire ce que vous avez dit, ça me semble très juste. » Alors que des professeurs à lui, justement, des gens qui l'estimaient, il y en a qui lui ont dit « Lol, en gros, quoi, c'est mort de rire, votre bouquin, c'est rien du tout. » Il a été très, très vexé. Hein,
Oui, des amis Charles Lyell, par exemple.
Oui. Oui, qu'il admirait, et là, il a été très déçu.
Et Fitzroy aussi, le capitaine qu'il avait rencontré lors du bal.
Lui, c'est quand même, il est très réactionnaire, très conservateur, et il a détesté ça. Il est devenu presque fou en pensant que c'était de sa faute si Darwin avait des idées pareilles. Hein. Oui, Fitzroy, il est spécial.
Et Fitzroy dit qu'il n'y a rien de très noble à l'idée de descendre même du plus ancien des singes. Est-ce que c'est de là que naissent les caricatures de Darwin, donc grimées en singe ?
Oui. Alors, Darwin a fait très, très attention dans l'Origine des espèces à ne pas parler de l'homme. Il y a juste une toute petite phrase, mais tout le monde a compris. Et donc, c'est un journal, je crois, qui a sorti « L'homme descend du singe » et c'est devenu la caricature. Parce qu'évidemment, l'homme ne descend pas d'un singe d'aujourd'hui. Mais ceci dit, si on voyait l'ancêtre commun entre le chimpanzé et nous, puisqu'il y en a un, si on le rencontrait dans la rue, on dirait bien que c'est un singe quand même.
Darwin, jusqu'à la 6e réédition de son livre, ne parle pas de théorie de l'évolution, il parle de transmutation des espèces. Alors, d'où vient le terme « théorie de l'évolution » ?
Ben oui, c'est plein d'erreurs en fait. La théorie de l'évolution, il y a quasiment trois mots faux là-dedans. Lui, il parlait de transmutation des espèces ou alors de descendance avec modification. Parce que dans le mot évolution, dans la racine latine de évolution, ça veut dire un petit peu se dérouler. Ça implique un but, une finalité. Et justement, Darwin ne voyait pas ça. Darwin, il a scandalisé parce qu'il a mis le hasard dans tout ça, dans les variations. Donc évoluer, ça donne un sens, un petit peu encore cette image de singe qui se redresse, qui est absolument fausse. Si on garde la lignée humaine, il y a eu plein de plus ou moins supposés ancêtres qui nous ont ressemblé et qui sont partis dans plein de directions. Il y a eu plusieurs espèces humaines, il pourrait y en avoir aujourd'hui plusieurs, ou il pourrait y en avoir aucune, suivant le hasard des glaciations ou autres. Donc on ne peut pas dire qu'on soit le sommet et qu'il y avait un but de la paramécie à l'homme.
Théorie, le mot théorie n'est pas bon non plus.
Ben non, parce qu'on croit que c'est une supposition. Ça fait un peu hypothèse, théorie, mais il faut le prendre dans le sens scientifique, c'est-à-dire que c'est une hypothèse étayée par des faits et qui est aujourd'hui entièrement prouvée. La théorie de l'évolution, c'est indiscutable aujourd'hui.
Alors, il y a bien sûr des réactions très contrastées, et parmi les personnes qui vont prendre, je vais dire argent comptant, mais c'est plus que cela, la théorie de Darwin, qui n'est pas une théorie, mais la transmutation des espèces, maintenant nous l'appellerons comme ça, il y a Francis Galton, qui est son cousin, et qui va détourner un peu cette transmutation des espèces pour en venir à l'eugénisme. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui. Il a eu plusieurs traîtres, Darwin. Il y a eu Herbert Spencer, qui était un philosophe très connu, qui a annoncé la loi du plus fort, qui n'est pas du tout dans les idées de Darwin. On y viendra peut-être un peu plus tard. Et il y a son cousin Galton, qui était persuadé de faire une partie d'une famille de génies, et qui disait qu'il fallait, en gros, sélectionner les humains comme on sélectionne, remplacer la sélection naturelle. Donc, il a inventé l'eugénisme, quand même. C'est pas rien. Et après lui, il y a Ernst Haeckel, qui a repris l'idée, et encore plus fort, l'eugénisme spartiate et l'euthanasie. Et c'est Haeckel qui a quand même inspiré Hitler et ses petits copains dans Mein Kampf. Donc les anti-darwiniens disent que c'est politiquement incorrect en disant ben voilà, c'est Darwin qui a inventé le nazisme. C'est absolument faux. Darwin, c'était le contraire, c'était un homme très, très doux, justement sans préjugés vis-à-vis des autres, très respectueux, antiraciste, etc. Et pour lui, le sommet de l'évolution, c'était la civilisation et justement la charité, on pourrait dire, envers le plus faible. Homme ou animal, et donc c'était la survie du moins apte. Donc c'est exactement le contraire que de la loi du plus fort.
Oui, voilà, je voulais en revenir à la loi du plus fort. Alors d'où vient cette idée de la théorie du plus fort, de la loi du plus fort ?
Eh bien, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social qui a été repris politiquement. Enfin, on a voulu politiser la biologie et ça justifiait un ultralibéralisme sauvage et brutal qui n'était pas du tout les idées de Darwin.
Alors il y a d'autres termes ambigus, notamment le terme « adaptation ». Par adaptation, là pour le coup, on peut repenser à Lamarck avec cette histoire de girafe au long cou. Oui. Adaptation, c'est dans le sens où c'est les contraintes du milieu qui ont sélectionné les animaux. En fait.
Et pas le contraire. Parce que si je vous dis, par exemple, l'ours polaire est blanc pour être invisible dans la neige, on dit souvent des choses comme ça, c'est absolument faux, parce que l'ours n'a pas eu la volonté de devenir blanc. Il ne s'est pas adapté parce qu'il fallait s'adapter. Parmi les ours, il y en a qui avaient spontanément des variations blanches, et c'est ceux-là qui ont survécu et ont transmis ce caractère. Mais ça s'est venu par hasard, quoi. Parce qu'il y a un potentiel énorme de variation dans chaque espèce. Et on le voit, par exemple, avec les espèces domestiques. Le chien, par exemple. L'ancêtre, c'est le loup. Il y a des formes incroyables de chiens, depuis les tout-petits, les énormes, les dalmatiens qui sont tachés, etc. Tout ça, ça vient du loup. Donc, si on laisse s'exprimer toutes les variations, il se passe des choses extraordinaires. Donc, il y a un potentiel de variation dans chaque espèce. Et l'ours blanc, par exemple, il y a eu ce potentiel de se transformer en blanc. Et c'est celui-là qui a été sélectionné. Mais l'ours n'a jamais voulu s'adapter.
Il y a parmi les termes qui figurent dans votre ouvrage plusieurs termes que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Le premier, c'est la convergence évolutive.
Oui, ça c'est intéressant. En fait, ça montre que des animaux, je dis animaux, mais les plantes c'est pareil, des espèces qui sont dans des milieux semblables montrent des adaptations semblables. Parmi les exemples les plus connus, il y a le dauphin, l'ichthyosaure qui était un reptile aquatique, préhistorique, qui a complètement disparu, et le requin, qui ont quasiment la même forme, alors qu'il y a un mammifère, un poisson et un reptile. Le grillon taupe, là, la courtière qui a des pattes comme en forme de pelle, qui ressemble à une taupe, alors que c'est un insecte, ça n'a aucun rapport au niveau parenté. Donc c'est des convergences.
Il y a aussi l'homologie que Darwin appelait l'unité de type.
Ah oui, bah alors ça c'est une des grandes preuves justement de la filiation des espèces. Si vous prenez un dauphin justement, ou une baleine, vous lui déshabillez la nageoire si vous voulez, et bien vous trouvez les os doigts. De la main exactement comme nous. Pour lui, il disait encore une fois, comment un dieu aurait créé des choses aussi similaires pour des outils aussi différents? La main, on la retrouve dans la chauve-souris, c'est les mêmes os, on la retrouve le sabot du cheval, etc. En fait, tout part de la même, du même ancêtre. Et ça s'est bricolé au fur et à mesure de l'évolution, c'est parti dans d'autres directions.
Et puis il y a la radation adaptative, où là on imagine qu'il y a plusieurs espèces, à l'image des chiens par exemple, oui. Ou des pinsons du Galapagos, oui. Qui d'ailleurs ne sont pas des pinsons, il faut préciser, c'est des géospices.
Les ornithologues, oui, on dit que c'est des géospices, mais on va les appeler pinsons comme tout le monde. Hein. Oui, une radiation adaptative, ça veut dire justement une espèce qui se transforme en plusieurs autres. Ça, c'est fréquent dans les îles, justement, avec le pinson des Galapagos. Il y a eu une espèce qui est arrivée et qui s'est disséminée en plusieurs espèces parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc, ça s'est exprimé de manière très, très différente. Alors, aujourd'hui, il y a des pinsons des Galapagos qui ont un petit bec très, très fin, d'autres qui ont un énorme bec de perroquet. Enfin, il y a plein d'adaptations différentes.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, si vous le voulez bien, Marc Giraud. On se retrouve dans quelques instants pour terminer notre émission en hiver. À tout de suite. Suite de notre émission En habit vert en compagnie de Marc Giraud, avec qui nous évoquons la personnalité de Darwin et l'histoire de la pensée de Darwin et de la théorie de l'évolution, autrement dit la transmutation des espèces. Maintenant, nous savons faire la différence entre les deux. Marc Giraud, dans la dernière partie de cette émission, vous me disiez, en marquant cette pause, que vous souhaitiez parler de la différence, la différenciation entre l'homme et le singe.
Oui, parce que pour moi, justement, Darwin, on en parle beaucoup pour son livre L'origine des espèces, il en a écrit un autre en 1872 justement, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Et il a jeté les bases de l'éthologie, c'est-à-dire la science du comportement avec ça, et je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle de Darwin, parce qu'il a complètement bouleversé notre manière de regarder les autres espèces vivantes. Lui, il disait une chose qui est une très belle formule, il disait « la différence entre l'homme et l'animal n'est pas de nature, elle est de degré ». Et pour moi, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on est peut-être les premiers de la classe pour certaines capacités intellectuelles, mais on fait partie de la même classe et de la même famille. Et lui n'avait pas de préjugés vis-à-vis des animaux, et aujourd'hui encore, c'est pas passé. Hein. On commence à accepter notre animalité. Si je vous dis que vous avez 99% de gènes communs avec le chimpanzé, ça y est, c'est acquis. Mais si je commence à vous parler de caractère humain chez le singe, là, ça commence à tiquer. Si je vous parle de sens moral, du sens esthétique, du sens de la justice, etc., chez un animal, vous allez commencer à me dire que je fais de l'anthropomorphisme. Et oui, j'en fais et je l'assume. Et Darwin l'assumait très bien. D'ailleurs, lui, il parlait des qualités mentales des vers de terre, de l'affection de l'araignée, du sens esthétique des oiseaux ou de l'univers de la conscience du chien. Donc lui, il n'avait aucun préjugé là-dessus. Il ne voulait pas mettre de barrière. Il disait, il n'y a pas de barrière. Je vous défie, en parlant des ancêtres de l'homme, sur toute la lignée des ancêtres de l'homme entre un être simien et nous, je vous défie de mettre la moindre étape à laquelle on pourrait dire, ça c'est un homme et ça c'en est pas. Il n'y a pas de frontière. La frontière, elle est idéologique, elle est philosophique. Ce sont souvent des gens un petit peu créationnistes, d'ailleurs, qui veulent toujours trouver absolument des différences entre l'homme et les animaux. Et à chaque fois, les barrières tombent. Au début, c'était l'utilisation des outils. On sait très bien que les singes, et même les pinsons des Galapagos, certains, utilisent des outils. Il y a eu le tabou de l'inceste. On sait très bien que ça existe aussi chez des tas d'animaux. Le sens de la justice, justement. Et même des défauts, genre la guerre, etc., on les a trouvés chez les animaux. Donc, bon, il y a des espèces que j'aime bien. Darwin, il faisait des tas d'expériences avec les singes du zoo de Londres. Par exemple, il les chatouillait pour les faire rire. Bah, le propre de l'homme de Rabelais, il tombe. Hein. Lui, il n'avait aucun préjugé, il savait très bien. Et aujourd'hui, on sait très bien que les singes rient. Il n'y a pas que les singes, hein. Les rats rient aussi. Mais comme c'est des ultrasons, on a été long à s'en rendre compte. Donc le propre de l'homme, on a du mal à le trouver et à le définir très très clairement. Je ne dirais pas qu'il n'y a aucune différence. Hein. On dit homme, il y a un mot pour désigner les hommes et il y a un mot pour désigner les animaux. On ne s'hybride pas, on est bien une espèce à part, ça d'accord. Mais à la limite, on est originaux, mais tous les animaux sont originaux. Il y a un propre du caméléon, un propre de la sole, propre de la méduse, enfin un propre... Voilà, évidemment qu'il y a un propre de l'homme, mais ce n'est pas si original d'être original. Voilà.
Pourtant, j'imagine qu'il y a quand même des expériences qui sont réalisées sur les chimpanzés pour savoir s'ils ont la notion de la beauté, d'esthétique.
Oui, il y a eu des expériences.
Pour l'instant,
de
on n'arrive pas encore à réellement. On se dit que c'est parce que ces animaux sont conditionnés.
Oui, c'est vrai qu'on les dresse, entre guillemets, à taper sur des claviers, à parler le langage des sourds-muets, etc., ce qu'ils ne font pas dans la nature, évidemment. Et on voit bien qu'ils ont des limites sur la pensée abstraite et qu'on est loin devant. Mais c'est en moyenne. Hein. Souvent, on compare des animaux très moyens avec des hommes un petit peu sublimés et idéalisés. On n'est pas toujours loyaux dans ces cas-là, parce que quand on parle de l'empathie, il y a des singes qui montrent de l'empathie. Et il me semble que chez les humains, il y en a qui n'en montrent aucune, hein, et pas seulement en temps de guerre. Hein. Par exemple, il y a cette histoire d'une guenon, une femelle de bonobo dans un zoo. Il y a un oiseau qui est tombé dans sa cage, qui s'est fracassé contre la vitre et qui s'est assommé. La guenon l'a pris dans ses mains, est montée sur un perchoir, a soufflé, lui a étendu les ailes et l'a jeté comme ça en l'air pour le faire voler. C'est une histoire extraordinaire. Ça veut dire que ce singe avait eu de l'empathie, ce qui veut dire d'abord qu'il faut avoir d'abord la conscience de soi et ensuite la conscience du monde de l'autre. Elle savait qu'un oiseau s'était fait pour voler et qu'il fallait le lancer en l'air. Bon, ben ça, c'est des expériences qui sont la suite de Darwin pour moi. Hein. Ce sont tous les primatologues et tous ces gens qui refusent de mettre une barrière entre l'homme et l'animal, justement. Franz de Waal, c'est toute l'école de primatologues qui sont fabuleux. Il y a beaucoup de philosophes aussi, Vinciane Desprez, Dominique Lestel, etc., pour citer des Français, qui sont dans cette école qui n'est pas très connue et qui sont les héritiers de Darwin. Et cela, c'est dommage qu'on n'en parle pas. Donc c'est pour ça que j'ai consacré une partie de la fin de mon livre à ces gens-là et à ces expériences-là. Il y a les singes peintres aussi, qui sont très rigolos quand même. Hein. Congo, c'était un singe surdoué qui faisait l'admiration de Dali, de Picasso qui en avait un chez lui, de Miro qui en avait acheté, qui avait échangé des dessins contre le sien. Il y avait une exposition de ces tableaux. C'est quand même extraordinaire. Alors les singes ne font pas du figuratif. Hein. Ils essayent de trouver des équilibres. Mais quand ils peignent, ils sont très concentrés. Il ne faut pas les embêter hein, quand ils peignent. Ils cherchent à ne pas déborder. Ils font des structures intéressantes. Et quand c'est fini, ils ne s'en occupent plus. Donc il y a vraiment quelque chose qui ressemble aux prémices de l'art. Et c'est absolument passionnant de voir comment... est né l'art chez les singes, comment est née la médecine avec les singes qui font de l'automédication, etc. Chez les singes, on voit toutes les prémices de l'humanité et ça, c'est passionnant.
On parle des singes parce que, bien sûr, on est proche d'eux, nous appartenons aux primates. Vous parlez aussi des chats et qui parlent avec les oreilles. Alors, comme on a tous beaucoup d'animaux de compagnie, je pense que ça concerne une partie de la population qui nous écoute.
Oui, ce fameux livre sur l'expression des émotions chez les animaux et l'homme, justement, il a étudié tous les animaux autour de lui, son propre fils d'ailleurs, il notait quotidiennement l'apparition du sourire, etc. Et beaucoup d'animaux carnivores baissent les oreilles, c'est un signe de menace. Parce que quand ils se battent, c'est un organe très vulnérable, l'oreille, donc on les couche, enfin ils les couchent pour les protéger. Donc un chat ou un cheval même qui baisse les oreilles, c'est mauvais signe. Donc il avait noté tout ça, il s'était aperçu qu'il y avait des choses universelles chez tous les humains, le sourire par exemple. Il avait des correspondants dans le monde entier qui lui parlaient des aborigènes, des amérindiens, etc. Il lui disait que les hommes s'expriment tous verbalement de la même manière, donc c'est absolument pas raciste de dire ça. Hein. Et qu'il y avait des choses, même entre les hommes et les animaux, on s'exprime de la même manière. Par exemple, les positions de dominance, on se met bien en valeur, et les positions soumission, que ce soit chez le loup ou chez l'humain qui se met à genoux devant le roi, etc., c'est tout à fait similaire et comparable.
Donc, dans votre livre, Darwin, c'est tout bête, vous parlez bien sûr des espèces. Alors, on comprend très vite que c'est très compliqué de parler d'espèces et d'y mettre une définition claire, hein, parce que c'est des embranchements qui sont
très développés. Puisque ça bouge, les espèces, que ça évolue. Lui, il ne voulait pas dire qu'espèces, ça ne colle pas, quoi. Donc, alors, on a quand même une définition, parce qu'on sait bien faire la différence entre une vache et une poule. On sait bien que ce n'est pas la même espèce. Mais entre beaucoup d'animaux, par exemple entre le tigre et le lion, ça s'hybride. Et la définition d'espèce, c'est s'hybrider et d'avoir des enfants qui soient eux-mêmes féconds.
Ce n'est pas le cas des mulets, par exemple.
Voilà, le cheval et le mulet, ça donne des êtres stériles. Le tigre et le lion, ça donne des êtres, quelquefois, qui ne sont pas stériles. Et il y a des exceptions. Et donc, la définition de l'espèce, elle est un petit peu floue. Voilà.
Alors, un nouveau classement est apparu dans les années 50. Il s'agit de la cladistique.
Oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on recherche l'ancêtre commun. Par exemple, l'homme et le chimpanzé. Donc, ça a bouleversé complètement notre façon de voir. On s'est aperçu, par exemple, que la vache est plus proche de la baleine que du cheval.
Alors, comment on l'explique ? Génétiquement, ça s'explique ?
Parce que anatomiquement, ils ont des points communs, donc un ancêtre commun qui leur a donné ce point commun. Et ce point commun, la vache et la baleine l'ont, mais le cheval pas du tout. Donc c'est vrai que la vache ressemble au cheval par convergence évolutive, puisque ce sont des animaux terrestres et herbivores, mais en fait, dans la lignée, ils sont très 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 différents. Donc c'est ça que nous apprend la cladistique.
Que le brochet est plus proche du cheval que du requin.
Oui, voilà. Alors il y en a plein des comme ça, et ça nous déroute complètement. Le crocodile est plus proche des oiseaux que des lézards, etc. etc. Mais parce que dans leur lignée, effectivement, les crocodiliens sont plus proches des oiseaux. Les oiseaux, on sait très bien qu'ils descendent des dinosaures.
Et aujourd'hui, ce classement est d'autant plus validé avec les recherches en matière de génétique.
En génétique, oui. Alors, il a aussi ses détracteurs, comme toutes les théories scientifiques. Il a aussi ses faiblesses. Donc, on fait des mélanges entre la tradition et les nouveautés et on arrive à des choses quand même assez vraisemblables, quoi.
Alors, la nature est assez extraordinaire puisque dans le domaine de la coévolution, on remarque qu'une plante, une orchidée, par exemple, va pouvoir être pollinisée par des papillons avec des trompes gigantesques pour pouvoir justement faire son travail de fécondation.
Oui, absolument. C'est encore une des théories originales de Darwin. Il a beaucoup écrit sur les plantes et on lui avait amené de Madagascar une orchidée comète avec un énorme tube nectarifère. Donc il se demandait quel insecte pouvait féconder une telle plante. Il s'est rappelé que les papillons nocturnes, les sphinx d'Angleterre avaient une très longue trompe. Et il a prédit que probablement à Madagascar, il y avait un papillon qui avait une trompe de 30 cm pour atteindre cette plante. On s'est encore moqué de lui. Il a beaucoup fait rire, le pauvre. Et quelques années après, on a découvert un papillon qui ressemblait à ça, effectivement, et qu'on a appelé Predicta, ça veut dire prévu.
C'est la même chose pour la rafflésie. Alors, c'est une grosse fleur que l'on voit de temps en temps dans les médias.
C'est
la plus grosse du monde, alors qu'il y a une odeur
De charogne.
Pestilentielle.
Voilà, épouvantable. C'est pour attirer les mouches. Donc, ça aussi, c'est une coévolution. C'est-à-dire que la plante a évolué en fonction des insectes et les insectes en fonction de la plante. Et une des originalités encore de Darwin, c'est qu'il a parlé aussi d'écologie. C'est-à-dire qu'il disait qu'une espèce évoluait en fonction des autres. Et il a pris un exemple qui est assez marrant, très britannique. Il a dit que les chats avaient une influence sur le trèfle. Donc, entre le chat et le trèfle, il y a deux animaux, le mulot et le bourdon. Le bourdon vit dans des terriers sous terre, souvent des terriers de mulots. Donc, quand il y a des mulots, le mulot chasse le bourdon. Donc, quand il y a des chats, le chat chasse le mulot, qui lui-même est moins nombreux, donc il y a plus de bourdons, donc les trèfles sont plus pollinisés, parce que le trèfle est pollinisé par le bourdon. Et il y a des biologistes qui se sont amusés à aller encore plus loin, c'est assez marrant. Ils ont pris comme postulat, alors c'est un postulat, que les vieilles dames anglaises dans leur cottage qui tricotaient avaient des chats. Donc quand il y a des dames qui tricotent, il y a des chats, donc il y a moins de mulots, donc il y a plus de bourdons, donc il y a plus de trèfles, donc il y a des prairies très verdoyantes, donc l'élevage se porte bien, donc les moutons font beaucoup de laine et la laine sert au tricot de la vieille dame. Et la boucle est bouclée, et ça c'est de l'écologie.
Qu'est-ce que vous retiendrez de Darwin, finalement ? Vous avez travaillé 2 ans sur ce livre ?
Même plus, parce que d'abord, je le connaissais déjà, et j'ai relu pendant 2 ans Darwin avant de commencer à écrire le livre.
Il y a des choses que vous avez découvertes ?
Ah oui, bien sûr. Oui, forcément, parce que dans tous les détails, il a été inventif et il a eu des intuitions géniales sur la soupe primitive, par exemple, l'apparition de la vie. Il a eu une intuition qui a été confortée aujourd'hui. La formation des atolls, c'est lui qui a trouvé ça. La dérive des continents, il avait aperçu ça. Il a dit que l'origine des humains était africaine et que notre plus proche parent était le chimpanzé, il n'y avait pas la génétique à l'époque, ça s'est vérifié, la fécondation des orchidées, etc. Il a découvert énormément de choses, hein. Il n'y a pas que la sélection des espèces, hein. Moi, ce que je retiens, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est justement sa vision des autres animaux, l'unicité du vivant, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous de la même famille, on est des frères de planète, et le respect des autres, le respect des autres races humaines, le respect des animaux et de la souffrance animale, etc., pour moi, c'est quelque chose de très important qui l'a beaucoup mis en valeur.
Et c'était un écologiste avant l'heure ?
Bah, on peut le dire, oui, tout à fait. Puisqu'il parlait de justement l'interaction des espèces, c'est ça l'écologie dans le sens scientifique du terme.
Je vous remercie Marc Giraud. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Darwin, c'est tout bête, mille et une histoires d'animaux pour comprendre l'évolution, paru aux éditions Robert Laffont en 2009. Merci beaucoup et peut-être à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Merci, au revoir.